48FM.
Les Slick John au couloir en numéro 2, allez les Slick, c'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, supermarché, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 68e Instant Sport, le premier de l'année 2017. Bonjour messieurs, bonne année sportive à tous, bonne année Patrick.
Bonne année à toi Ludo, à tous nos amis chroniqueurs et bonne année à toutes et à tous qui nous écoutaient maintenant depuis pas mal de mois, même d'années, hein, parce qu'on a commencé quand Ludo, tu te souviens?
Oh, il y a deux ans et demi.
Voilà, fin 2014. C'est ça.
T'es pas comptable, Laurent, par hasard?
Si, c'est ça.
Ah, tu tiens les chiffres, hein, c'est bien.
Bon, donc, on est là, fidèle au poste, pour cette nouvelle année 2017. Et puis, bon, cette fin de saison qui s'annonce passionnante pour les sports mandois et toute la Lozère, bien évidemment.
Oui. Bonne année, Julien, tu as passé de bonnes fêtes?
Eh bien, bonne année à vous tous, bonne année aux auditeurs, oui, des bonnes fêtes. Une bonne coupure qui fait du bien et pour bien attaquer l'année 2017 en pleine forme.
Ouais, c'est bien parce que ça redémarre maintenant. Salut Aurélien.
Salut, bonjour à tous et bonne année à tout le monde.
Alors pas de neige pour toi ce week-end, hein, t'es allé dans le sud encore.
Ouais, c'est ça, mais pas de neige mais quand même froid. Hein. Froid et un petit vent glacial qui était pas terrible.
Oui, mais il fait beaucoup plus froid hein, dans le sud quand il y a cette tramontane qui souffle, qu'ici, un froid sec.
C'était le point météo.
C'était le point météo. Justement, salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors il paraît que tu as fait comme à l'Eiffel ce week-end, à cause de la neige tu as mis près de 5 heures à pied pour faire de la providence à la radio. Tu serais parti du travail, on m'a dit, à 7 heures du matin pour te rendre dans les studios.
Tout à fait, les conditions sont difficiles, donc il faut prendre à ses dispositions.
Eh bien, tu fais bien. On va commencer par le volet, cette première émission de 2017, et une nouvelle victoire pour le MVL contre le 3e Fréjus 3-7-1. Du coup, le MVL s'assure les playoffs. Patrick, Julien, vous étiez au match?
Oui, exact.
Patrick,
on a vu un superbe match, conforme à ce qu'on pouvait attendre entre le 2e, le MVL, et Fréjus, qui est actuellement 3e de cette poule élite. Donc on a vu un premier set assez bien maîtrisé par nos amis losariens. Et puis après, comme de coutume, j'allais dire, il y a toujours un creux pour cette équipe mandoise. Alors c'est ou au second ou au troisième set. Donc là, ça a été au second et donc Fréjus est revenu. Il y a eu un troisième set vraiment qui a basculé du côté mandois, mais assez facilement. Et puis un quatrième set qui aurait pu, il faut le reconnaître, Julien, je ne sais pas si tu auras la même analyse que moi, et qui aurait pu largement basculer aussi du côté des Varois. Il y a eu quelques décisions arbitrales. Alors, on se plaint souvent de l'arbitre, mais là, ça a tourné quand même assez souvent, surtout dans le quatrième set, du côté de Mandois. Et bon, il y a même eu, j'ai vu un truc assez rare, où l'arbitre même a accordé un point à Fréjus, et puis 10 secondes après, il est revenu sur sa décision, et donc il a accordé le point à Mande. Donc ça arrive pas souvent, et puis il y a eu cette balle de match où il compte un doublé sur le passeur, il n'en a pas sifflé un de tout le match, et donc il siffle sur la balle de match, alors qu'il y avait 24-23, donc il y a eu vraiment un rush de tous les joueurs et du banc de Fréjus en direction de l'arbitre, mais bon, là il n'est pas revenu sur sa décision, donc ça a été un peu une fin queue de poisson. Dommage car on a vu deux belles équipes et vraiment un gros match de volley dans un gymnase bien court, vraiment copieusement garni, donc une belle soirée.
Il paraît qu'il a été noté 4 dans l'équipe, l'arbitre.
Non, ça c'est Turpin. Alors pour la petite anecdote, ça a été précisé par Christian Martier quand il fait la présentation des équipes, l'arbitre numéro 1, donc celui qui a pris cette décision-là, est originaire d'Avignon. Alors c'est totalement surprenant parce que si on va au bout du raisonnement, en tant qu'Avignonnais, il aurait dû avantager plutôt Fréjus puisque le concurrent numéro 1 d'Avignon c'est Mande. Et donc là, assez bizarrement, donc il y a eu quelques petites décisions en faveur de demande de cet arbitre avignonnais.
C'est étrange. Laurent, tu voulais dire ?
Non, je voulais dire quelque chose sur l'arbitre, mais Patrick y a répondu. Je voulais savoir d'où était l'arbitre. Donc voilà, donc j'ai eu la réponse.
Il est d'Avignon.
Voilà.
Donc il a été tout à fait honnête alors dans le match et dans ses décisions.
Écoute, c'est vrai que soit franchement le volet sur 2-3 situations de jeu, c'est vrai que l'arbitre a quand même un pouvoir de faire basculer le 7 enfin quelques points. Et donc c'est vrai qu'en fait tu peux très bien siffler des deux côtés. Et bon, alors tu peux râler, mais c'est pas un vol parce que c'est une question d'interprétation. C'est presque un peu comme le patinage artistique. Et c'est vrai que quand tu jettes le ballon, mais il y a des arbitres qui sifflent, quand tu fais une passe, il y a des arbitres qui sifflent, des arbitres qui sifflent pas. Et donc bon, mais là aussi pareil, tu vois, est-ce qu'il y a pénétration, c'est-à-dire est-ce que tu as mis le pied en dessous le filet, est-ce que tu as mordu la ligne ou pas, bon. Tu le vois, tu vois pas, il y a pas de vidéo bien sûr au niveau élite, et donc voilà, donc l'arbitre peut influencer le cours quand même d'un set, et chaque fois qu'il a dû prendre une décision, c'est vrai qu'il faut reconnaître dans ce quatrième set, parce que dans les trois premiers sets il s'est absolument rien passé, l'arbitrage n'est pas intervenu, mais dans ce quatrième set c'est vrai que sur 2-3 points s'il les avait donné à Fréjus, ça aurait pas été scandaleux.
Mais Patrick, dis-moi, l'arbitre numéro 1, il y a quand même un arbitre numéro 2 qui est de l'autre côté du filet. Ils s'entendent pas quand même sur ces points litigieux.
Donc c'était une dame qui était deuxième arbitre. Donc il a appelé une ou deux fois, mais bon, en fait sur la balle de match, il a pas consulté parce que c'est à lui que doit prendre la décision. Mais sur les fautes de fil et les fautes de pénétration, quelquefois il les a fait venir. Et il a fait venir, mais bon, il a changé cette décision où le point était pour Fréjus, après il a accordé amende. Bon voilà, il y a eu quelques situations un peu
ambiguës. Mais c'était pas dans le dernier set, ça.
Si, c'était dans le quatrième set. Le quatrième set.
Ah oui, ça faisait un peu beaucoup.
Tu peux écouter, voilà. S'il te plaît, Laurent.
Oui, non, c'est vrai que ce quatrième set a été marqué par tout un tas de contestations, et c'est vrai que Fréjus peut quand même se sentir lésé de ce quatrième set, ce qui n'empêche pas, c'est pas pour ça que Fréjus aurait gagné le quatrième set, mais quand même ça aurait mis beaucoup plus de tension, et déjà ce set était vraiment très tendu.
Moi je trouve qu'il a très bien arbitré. Julien, dis-nous un peu ton ressenti sur ce match.
Patrick a pas mal résumé le match, c'est vrai que sur l'arbitrage il y a eu des décisions un peu litigieuses, j'ai notamment souvenir d'un point dans le quatrième set où l'arbitre donc qui était sur la chaise, donc le fameux Avignonnais, qui accorde un point pour Mende, et la dame qui était en bas de l'autre côté accorde un point pour Fréjus. Donc, comme l'a dit Patrick, c'est vraiment une question d'interprétation sur certains points.
Comment ça se passe là ? C'est l'arbitre.
C'est l'arbitre numéro 1 qui décide au final. Ouais.
Ouais, voilà, c'est lui qui.
C'est lui qui est prioritaire.
Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une question d'interprétation. Est-ce que lui sur la chaise, il voit peut-être qu'un joueur a mordu tandis que l'autre le voit pas ?
Il est mieux placé puisqu'il est surélevé. Donc.
Et c'est vrai que bon, sur la balle de match, on retient ça parce que c'est une balle de match et que ce doublé là du joueur de Fréjus était pas forcément flagrant. Il y a eu un petit peu une hésitation dans les tribunes de Piancourt. On savait pas trop si c'était terminé ou pas le match et ça a pas mal déclenché la colère des joueurs de Fréjus. C'est vrai qui se sont rués vers l'arbitrage, mais bon voilà, l'arbitre avait décidé. Et d'autant plus frustrant quelque part pour les joueurs de Fréjus qu'ils étaient menés de 4 points, 24-20 dans ce quatrième set, et ils se sont vraiment accrochés pour revenir 21-22-23 et un petit peu dans l'euphorie quoi. Ils pouvaient se dire qu'ils pouvaient aller chercher ce quatrième set, mais bon, l'arbitrage a fait le reste.
Surtout sur cette action, c'est un ballon de relance. C'est-à-dire que Mende attaque, le ballon est défendu, et donc ça arrive au niveau du passeur, et donc le passeur fait un ballon de relance. Et donc si l'arbitre laisse jouer le jeu, il va y avoir une attaque de Fréjus. Donc tu sais pas, il aurait très bien pu y avoir
24-24
Mende et 25-23, mais oui, le point aurait pu être fait par Fréjus, on aurait alors été à 24 partout. Donc tout ce que cela peut entraîner après. Donc c'est vrai que au moment où le passeur relance, boum, l'arbitre siffle et dit doublé, donc point pour Mende et fin du match. Bon, hormis ça. Au niveau individuel, il faut quand même souligner, moi j'ai vu du côté mandois deux jeunes vraiment stratosphériques, le pointu Loïc Alphonse, bon, qui a fait
comme
un
d'habitude
match,
voilà, il est toujours dans les
non mais là je te promets Laurent, il a fait un match vraiment sensationnel. Bon, j'aime bien faire les stats moi pendant le match, j'ai mon petit carnet, et donc dans le deuxième set il marque 4, bon c'est le set que tu perds, mais il marque 14 points, il fait 14 points à l'attaque uniquement sur le second set.
Ah, c'est énorme.
Bon, c'est totalement, totalement hallucinant. Et puis il y a eu le central, Moussé Gueye, donc qui jouait quand même en réserve l'année dernière, donc qui intègre cette équipe 1 cette année, qui a commencé la saison en tant que remplaçant et qui maintenant est titulaire, bon, qui a fait un match au centre, aussi bien au contre qu'à l'attaque, vraiment, vraiment fabuleux. Il a 20 ans, une marge de progression énorme pour ce joueur. Qui vraiment amène plus énorme dans cette équipe du MVL.
Justement, pour revenir sur Moussé Gueye, au début, quand on allait voir les matchs, c'est vrai qu'il était encore...
Il était dans les tribunes.
Il était remplaçant. Et quand il rentrait, qu'il avait un petit peu de temps de jeu offert par Constant Choissy, il paraissait timide. On sentait qu'il avait des qualités, mais il prenait pas, on dirait, la pleine mesure de ses qualités. Il n'osait pas faire les choses. Et puis là, depuis quelques matchs là, qu'on a la chance de voir au Piancourt, il survole, quoi. Vraiment, il fait parler sa taille, il fait parler sa technique, il est vraiment impressionnant dans tous les matchs. Et puis bon, après, comme l'a dit Patrick, Loïc Alphonse, ça devient même plus la peine peut-être de le dire, tellement il est énorme à chaque match, il fait un bien fou en attaque et même en défense, il est très très solide.
Je crois savoir qu'il y a le petit jeune libéro Anthony, oui, Chaillou qui a, ouais, fait une belle partie aussi.
Tu fais bien.
Donc,
tu fais...
Du coup, il faut le dire aussi, quoi.
Non, mais il a exactement la même trajectoire que Moussé. Puisqu'il était, il a joué en réserve toute l'année dernière. Donc là, cette année, il est incorporé au groupe senior. Il a commencé, lui aussi, sur le banc de remplaçant. Et puis maintenant, depuis quelques matchs, il est titulaire, il a fait sa place. Et c'est vrai qu'il a fait un match... Il a fait, bien sûr, quelques erreurs, mais c'est inévitable au poste auquel il évolue. Hein. Bon, je me souviens d'une fois, il y a un service. Bon, il a cru que le service était faux, il a laissé passer alors qu'il était placé. Bon, mais le service est tombé en peine sur la ligne. Donc, il y a eu point pour Fréjus. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'au niveau réception et défense, il amène une sécurité à cette équipe mandoise.
On avait fait combien à l'aller contre Fréjus?
On avait gagné aussi 3-1.
3-1. Ah, très bien, alors. Donc, ça y est, les playoffs, c'est bon, on est qualifié.
Ben là, oui. Sans aucun souci.
Bon. 3-7-1, c'est un petit peu le score que font les Mandois à chaque fois.
Oui, hein. Tout à fait, ouais. puisque tu fais bien de le dire, à l'heure où on se parle, ils n'ont pas remporté un seul match 3-0. Ils ont fait 3-1.
Ils n'avaient pas remporté un
Non,
jamais.
Non.
Ils ont mis 3-7-0.
Non. Ils n'ont pas fait un match.
Qu'il avait eu un à
l'extérieur, ils n'ont pas fait une victoire en 3-7-0. Non, il y a toujours ce petit moment de décontraction. Alors, c'est rarement au premier set, mais c'est souvent au second, parfois au troisième. Mais il y a toujours un set qui part en route. Mais bon, ça n'a pas de conséquences pour le moment au classement, puisqu'on sait que quand tu gagnes un 3-2, tu marques un point de moins. Tu marques 2 points au lieu de 3.
Et Avignon a gagné aussi.
Oui, oui. Avignon a gagné 3-0.
Contre Alluin.
Voilà, ma soeur, petite histoire, ma soeur a été présente au gymnase à Avignon, et donc on s'est envoyé un texto. Donc, en direct live, je renseignais nos amis dirigeants et coach mandois de l'évolution du score d'Avignon, puisqu'en plus, ils jouent à 20h, donc demi-heure avant nous.
Ah, il est bon, ce Patrick.
Et ils seront bientôt.
Et voilà, le 4 février. Ah oui, 4 février, là, oui. Cochez bien la date, match. Vraiment stratosphérique.
Attention, c'est la reprise du hand aussi.
Faudra faire un choix, c'est vrai. C'est
classement, capitaine, ça donne quoi?
Alors, au classement, donc Avignon premier avec 30 points, deuxième Mende 29 points, troisième Fréjus à 21 points, quatrième Amiens 19 points et cinquième Alluin 15 points.
Alors pourquoi ils sont qu'à un point devant alors qu'ils font beaucoup de 3-0
Parce que quand tu gagnes 3-0 ou 3-1, tu marques 3 points.
D'accord, ok, c'est voilà. Pour ça. Les prénationales.
Et attention, si je peux rajouter.
Bien sûr.
Donc samedi prochain, il y a Fréjus Avignon.
Donc, attention.
Donc gros ça veut dire match. Que Avignon peut venir à Mende en étant second.
Exactement.
Et toi, mais Mende va où la semaine prochaine?
Voilà. On va à Calais. Donc Calais qui est dernier.
Calais qui n'est pas dans le classement.
Saint-Pierre, voilà, Saint-Pierre-Calais.
Saint-Pierre, les Miquelons de Calais.
Qui est dernier au classement. Alors là aussi.
Avec trois petits points juste.
Pour l'anecdote, je vais même aller plus loin.
Tu as une autre sœur qui était
Non, on peut perdre ce match à Calais. On peut perdre match à Calais.
Oui, ça n'a pas d'incidence sur
Calais,
les playoffs.
Comme Calais n'a aucune chance d'aller en playoff, donc ce résultat sera automatiquement enlevé.
Oui, tu as raison, c'est vrai.
Donc, c'est là, bravo la Fédération Française de Volleyball, c'est l'exemple même d'un match qui compte pour rien. Alors que tu vas traverser la France pour rien, puisque ça n'aura aucune incidence sur le classement.
Oui, mais non. Mais si. Psychologiquement, t'es, c'est important
si tu veux,
quand même.
Si tu veux.
Les prénationales masculins s'inclinent de justesse chez le troisième, la Rago de 7, 3-7 à 2, et reste dernier, mais avec deux matchs en moins. Ils commencent un peu à prendre la pleine mesure des possibilités dans cette poule. Hein. 3-2 chez le troisième, c'est pas mal, ça commence. Défaite également des prénationales féminines à domicile contre Nîmes, 3-7 à 0. Au classement, non des 6e sur 10 avec 14 points derrière Gignac, Nîmes, Béziers, Rebéziers et Latte Montpellier. Bon classement hein, pour les féminines, 6e sur 10.
Je crois que les féminines n'ont pas joué puisqu'elles étaient un gros manque d'effectifs, donc a priori je pense qu'elles ont fait forfait.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'elles ont perdu 3-7 à 0 voilà. Alors. Merci.
Donc a priori il y a beaucoup de blessés dans cet effectif.
Il y a des problèmes d'effectifs. Hein,
et donc je crois qu'il n'y a pas eu de match ce week-end.
Normalement c'est Laurent qui me renseigne sur le sport féminin, mais là il m'a rien dit. Donc
par forfait.
Je sais pas.
Et on peut avoir une pensée aussi pour Amal qui poursuit une longue. Fait une rééducation et après ce ballon pris en pleine tête, elle n'est toujours pas revenue à 100%.
Ça va pas
mieux. Un peu, mais guère mieux, quoi. Donc on passe fort à elle.
J'ai une solution pour elle, c'est les petits fours d'Aurélien qui solidifient au manger. Alors il faut savoir
c'est vrai
que
qu'Aurélien aujourd'hui nous a amené des petits fours
qui sont très bons.
C'est comme mur. C'est du bloc isostal. Ils sont un peu durs, mais ils sont très bons.
Ils sont très bons. Vous êtes sévère, vous êtes durs.
Allez, rugby qui dit match à l'extérieur, dit défaite. RCML qui s'incline d'un petit point, 22-21 à Toche-Corbière. Le RCML qui menait tout de même 16-5 à la mi-temps. Ouais. 3 essais de Gori, Roux, Martin, 19e, 22e, 49e. 2 pénalités, 4e et 16e de Castel. Contre, pareil pour Toche-Corbière, sauf qu'il y a 2 transformations et 1 pénalité. Au classement, Aurélien.
Au classement, donc, Plage d'Orbe, toujours leader incontesté avec 46 points. Deuxième, Lunel, 33 points. Troisième, Bédarieux, 32 points. Quatrième, Sijan, 32 points aussi, mais avec un match en moins. Cinquième, Prades, 24 points avec un match en moins. Et sixième, Mende, 21 points avec un match en moins aussi.
Non, mais ce classement est totalement faux, puisque je vois que Toche-Corbière a 7 points et Toche-Corbière n'a pas 7 points. Puisque Toche-Corbière est passé devant Vinassin. Ah oui, à moins que vous ne comptiez pas les... Ah oui, d'accord, peut-être, Marc.
Parce que
vous ne comptez pas... parce que sur le vrai classement, il y a les scores de l'équipe qui est forfait.
Oui.
Et donc, il compte les points.
Si on veut positiver, la victoire à l'extérieur commence à se rapprocher, puisque là, il n'y a qu'une défaite d'un point. Bon, certes, c'était le dernier, mais...
Ouais, ça fait, ça
il y a qu'un point d'écart. Petit à petit, il se rapproche.
Ça fait râler, parce que... C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement défavorable où le coach Loïs prend un carton blanc et puis dans la minute suivante,
je sais pas, 10
minutes,
c'est quoi carton
blanc,
c'est-à-dire
10 minutes au frigo, c'est-à-dire 10 minutes tu joues à 14 contre 15 et puis dans la minute suivante, il y a un autre joueur de Mandois qui prend un carton jaune, donc pendant quasiment 9 minutes, tu as joué à 13 contre 15
ouais.
Et donc si tu regardes, ils ont pris, je crois que c'était à 36 et 37, donc ça correspond dans ces 10 minutes au laps de temps où Toche-Corbière a marqué 2 essais. Donc quand tu perds un point et que tu sais que l'équipe adverse a marqué 2 essais, je sais pas s'ils ont été transformés, mais au moins 10 points, donc c'est à ce moment là que ça se joue, quoi.
Ils ont été transformés, ouais. Voilà. Et ouais, c'est deux fautes, peut-être d'inattention.
Et oui, deux fautes un peu stupides, et donc aux conséquences vraiment très, très dommageables pour cette équipe mandoise, qui a fait un match, d'après ce que j'en sais, au niveau du pack, les 8 de devant, qui a vraiment atomisé l'équipe adverse. Donc c'est d'autant plus râlant, parce qu'au rugby, quand tu domines devant, en principe, la victoire, t'es automatiquement acquise. Et donc c'est vrai que c'est râlant de dominer autant... ce match-là avec ton paquet d'avant et au final de revenir avec cette défaite. Certes, où tu marques un point de bonus défensif, mais c'est un moindre mal par rapport à ce que tu aurais pu obtenir.
Allez, avant de te laisser la parole, je vais prendre un risque. Je vais manger un de tes petits fours. Donc, t'en as pour 5 minutes.
Vas-y,
le temps que
tu ailles se brosser les dents aussi après.
Non, je voulais juste rajouter, effectivement, sur ce match-là, on peut voir, c'est vraiment la discipline qui leur coûte le match, hein. Ouais. Puisque, comme tu disais, c'est pendant le laps de temps où ils sont à 2 de moins, où ils prennent les essais. Et comme tu le disais, le paquet d'avant a joué pleinement son rôle. Comme à chaque fois, moi j'étais allé les voir à l'extérieur où les avants ont fait un gros match aussi. Il maîtrise parfaitement les ballons portés, la tortue. D'ailleurs, je crois que les trois essais qu'il marque, c'est ouais. des essais d'avant. Hein.
Ah ouais, le premier, c'est une énorme tortue qui envoie le pilier. Ouais, puis le deuxième, c'est une progression. Et puis le troisième ligne part tout seul et il n'y a plus qu'à pâtir. Donc, énorme travail.
Le troisième essai, c'est un essai collectif. Voilà, donc,
alors, Laurent est en train de mimer la tortue. Donc, explique-lui ce qu'est une tortue parce que là, il n'y est pas du tout.
C'est quand les huit joueurs sont liés entre eux, donc tu vois comme les Romains, là, c'est-à-dire ils se tiennent quasiment par l'épaule et puis ils avancent et puis ceux qui sont en face n'arrivent pas à les arrêter, donc tu avances sur 10
Le ballon il est où là?
Mais il est bien au chaud, bien calé dans les bras d'un des membres de la tortue, et donc après tu une fois que tu arrives à la ligne, ben tu t'aplatis et y a essai.
C'est un peu comme un mol, en fait. Non?
C'est un pas tout à fait, c'est un gros pépé pénétrant qu'ils appellent. Voilà. Une tortue.
Par contre, il faut quand même alerter avec les conditions météo. Moi, je félicite les rugbymen parce que jouer quand il fait zéro, des températures négatives sur terrain gelé, tu fais signe, mais tu le ferais pas.
Ça pique un peu dans les contacts.
Et je comprends pas que la fédération de rugby ne fasse pas une pause l'hiver.
Tu joues jamais sinon.
Et on peut
janvier à mars,
tu dois avoir un van quand même assez glacial parce que bas dans l'Aude, ça souffle aussi pas mal.
Plutôt que d'arrêter la saison au mois de mai, là, comme ça arrive des fois régulièrement au rugby, je sais pas, tu peux peut-être un peu prolonger. Non,
ah, mais là, de toute façon, il leur reste 6 matchs, je crois. Et la fin de la première phase se termine fin mars. Donc là, tous les week-ends, jusqu'à mi-mars, fin mars, ils vont avoir des matchs.
D'ailleurs, le prochain match, c'est un nouveau déplacement à Vinassan qui est aussi mal classé. Donc là, on espère enfin cette première victoire.
Ouais, moi, j'y crois là. Moi, je m'avance, je dis que le week-end prochain, ils ramènent la victoire. De Vinassan,
c'est vrai, tu as raison, moi aussi j'y crois.
En parlant de Vinas, sers notre ami Patrick Biancon, s'il te plaît Aurélien. Handball,
c'est pour tremper les petits fours.
J'ai failli me casser une dent là sur le petit four que j'ai mangé. Handball, donc on l'a dit, la reprise de l'équipe 1, c'est en février.
Le 4 février.
Je n'ai pas trouvé le score de l'équipe réserve, tu l'as Julien, contre Vonage.
J'ai perdu 41-25 à Vonage, une défaite un peu lourde. Et sur les stats, on peut imaginer quand même qu'heureusement il y avait le Robin Bartholome qui a fait du bien puisqu'il a quand même marqué 9 buts sur les 25. Donc il a dû amener un petit peu quand même son expérience de la Nationale 3, mais c'est vrai qu'au vu du score, une défaite assez lourde.
Eh bien, mais ils passent second du coup au classement,
ouais,
quoi.
Ils passent deuxième.
Alors, par contre, quand il s'agit des féminines, parce qu'il faut savoir que samedi...
On avait un envoyé spécial.
Voilà. Samedi, j'ai envoyé un message à Laurent. Je savais que tu allais au volet. Patrick, oui. Est-ce que tu veux venir au volet avec moi? Il m'a dit non, je peux pas. J'ai match des seniors féminines de hand. Bon, finalement, je suis pas allé au volet parce que en l'espace de 10 minutes, j'étais un peu trop sous. Mais bon, ça, c'est une longue histoire. Par contre, pour les féminines, Laurent était au courant. Les Mondois s'inclinent de peu face au leader Bellegarde, 28-26. Toi qui étais au match, dis-nous, ça s'est joué de rien, de but?
Oui, en effet.
Il rigole parce qu'il est parti à la mi-temps. Non, c'est pas beau. Bon, je balance, c'est pas beau de balancer.
C'est pas sympa, ouais.
Mais il y a NCIS qui débute
non,
après.
Non, donc, j'étais donc allé voir ce match contre Bellegarde qui était première et avec composé que d'anciens Nîmoises, puisque l'équipe de Nîmes s'est arrêtée pour diverses raisons. Et donc, toutes les joueuses de l'équipe 2 de Nîmes sont parties à Bellegarde. Donc là, j'ai discuté avec une dirigeante qui m'a dit qu'il y a dans l'effectif qu'une seule joueuse de Bellegarde. Donc, ça sentait le roussi, ça sentait même le pâté avant le match, avec quelques joueuses absentes ou voire malades au début du match. Et puis, finalement, ça a attaqué par un 4-0 pour Manda. Donc là... les gardoises étaient venues qu'à 8. Bon, j'ai dit là, ça va le faire aujourd'hui. Et puis finalement, à l'expérience, petit à petit, elles sont revenues. 13-13 à la mi-temps. Et puis 28-26 à la fin du match.
Voilà, on vous passerait la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, pas
je sais pas. Mais enfin, toujours est-il que c'est dommage parce que finalement, à quelque chose près, elles ont failli créer l'exploit. Elles avaient perdu de 7 buts au match aller en faisant un très gros match. Elles étaient même satisfaites de leur match. Là, c'est pas passé loin, c'est dommage, c'est ballot, mais il y avait quand même en face des joueuses qui ont joué à un très bon niveau, une très bonne gardienne, et bon, voilà, c'est le résultat est pas là, mais dans l'envie, c'était chouette.
Oui, et au classement, elles sont pas mal, hein. Au final, Aurélien?
Au final, elles sont quatrième. Hein.
Et ouais, quatrième. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Mais ça y est, c'est 2017, je fais plus rien, je donne juste le classement.
Alors, Bellegarde, premier avec 21 points, deuxième, Montpellier, 19 points, troisième, Jacou, 13 points, et quatrième, Mende, 11 points.
Il faut savoir que là, c'est un championnat, il n'y a pas de play-off, comme les autres années, ça existait. Là, c'est qu'un championnat, il n'y a que le premier qui monte. Donc, le championnat, je pense qu'elles vont finir maintenant, enfin, c'est sûr, en roue libre, ce championnat.
11 points, 21, ouais, ça paraît compliqué. Hein. Encore que c'est quoi, c'est 3 points la victoire ?
Oui, non, mais
c'est compliqué.
C'est impossible.
Allez, football, au vu des prévisions météorologiques, certains matchs avaient été inversés pour avoir plus de chances de pouvoir les jouer, mais en raison des chutes de neige et des conditions de circulation. En PHA, la rencontre entre l'AFL2 et Vauvert, prévue d'abord en Lozère, puis dans le Gard, a été reportée. De même qu'en PHB, la rencontre devant opposer Badarou et Le Vigan, reportée également le match entre Rousson et Marvejols. L'équipe 1 de l'AFL n'a pas vu son match reporté, mais au vu des péripéties du retour, on peut se demander si c'était bien pertinent de faire jouer le match. L'équipe qui arrivait à près de 5h du matin, après 400 km sur la neige, donc vous imaginez un peu. Au final, excellente prestation des joueurs de l'AFL avec un match nul ramené de Louan Cuiseau, l'un des prétendants à la montée, on le dit depuis le début de cette émission. De partout au final, but pour l'AFL, Rebolosso 56e et Diallo 86e contre des buts encaissés à la 73e. Et à la 89e, sachant que Fadigol a touché le poteau à la 90e. Beau match. Bon, on prend encore un dernier but avant la fin, avant le coup de sifflet final. Donc c'est un peu rageant, mais on a failli en mettre un. Sentiment mitigé.
C'est un peu
mais,
comme Aurillac, finalement.
Voilà, mais au final, c'est chez une grosse équipe. Donc bon, bravo. Hein.
Non, mais Louan Cuiseau a joué le week-end précédent contre Dijon en Coupe de France. Donc Dijon qui joue en Ligue 1. Hein. Perdu, Dijon s'est qualifié 2-0 et donc à ce moment-là on sait très bien que l'équipe est friande de faire des articles sur ces clubs amateurs qui rencontrent des professionnels. Donc il y avait un article assez intéressant justement avant le match sur Louan Cuiseau et donc qui faisait parler le président, et donc le président a déclaré, bon, textuellement il a dit qu'il, bien sûr il connaissait pas les budgets de tous les clubs de CFA2, mais il pensait raisonnablement qu'il avait le plus gros budget. Alors là, je ne parle pas de la poule de Mende, je parle de l'ensemble des groupes de CFA2. Donc il y en a quand même, il y en a quand même 8, si je me. Hein, c'est ça ?
8 poules ?
Je crois qu'il y a 8 poules. Hein. Mmh. 1, B, C, D, E, F, G. Ah, il y a 8. Donc c'est bien ça, il y a 8 poules en CFA2. Donc le président de l'UO, de Louan Cuiseau, a, pour lui, il a le plus gros budget de ces huit groupes.
Donc ça doit évidemment finir premier.
Voilà, donc c'est ceux qui disaient qu'il aurait du mal à comprendre s'il jouait pas en CFA l'année prochaine. Bon, toujours est-il, donc ça montre bien la performance réalisée par l'AFL dans des conditions totalement hallucinantes, puisque il y a eu des photos qui circulent sur internet où on voit en deuxième mi-temps
tu joues
sur la neige quasiment toute la deuxième mi-temps. Mais encore une fois, il faudrait là aussi recenser combien de buts nous avons pris, alors dans les 5, 10, ou alors, au moins dans le dernier quart d'heure, c'est totalement impressionnant, parce que même quand on gagne les matchs, on prend quand même un but à la fin, puisque contre Saint-Etienne, on gagne 2-1, mais on prend aussi un but à la 88e. Alors ne parlons pas de, c'était quoi, c'était Cournon.
Aurillac.
Voilà, Aurillac, Cournon, Borgo aussi, puisqu'on a pris contre Borgo des buts à la fin.
J'ai une idée, donc là aussi. On a un petit jeune dans l'équipe, il pourrait nous le recenser pour la semaine prochaine.
Ça. Voilà.
Ouais, donc, ça sera ta mission, Julien.
Et donc ça tourne souvent contre l'AFL, puisque la seule fois où ça tournait à notre avantage, c'est à Normandie, puisque Yann Musi avait arrêté le penalty dans les arrêts de jeu. Fort heureusement. Bon, c'est dommage parce que ça t'enlève au moins 3-4 points. Tu aurais une vision du classement différente. Mais à la fin des matchs aller, tu es sixième, même s'il y a des matchs en retard, c'est compliqué de voir vraiment la situation. Mais sixième.
Tu peux te faire doubler par Borgo.
Voilà, à la fin des matchs aller, tu. Bon, c'est un début, une première partie de saison correcte. Voilà, à mon avis, on doit jouer dans ces 5-6 premières places. J'espère qu'on arrivera à être dans les 5 premiers à la fin du championnat.
Ouais, mais bon, ça reste quand même un résultat positif. Je pense que tu aurais dit aux joueurs et aux dirigeants qui ramenaient le nul avant le match de Louan Cuiseau. Je pense qu'ils ils auraient signé de suite. Donc, faut quand même souligner la bonne performance des Mendois sur ce coup-là.
Alors j'ai vu également sur le site de l'AFL un ancien joueur de l'AFL qui joue maintenant à Louan Cuiseau, un attaquant.
Oui, oui, Ashraf Beris, petit ailier qui venait de je sais pas d'où, du sud. Je ne sais plus son club avant qu'il arrive à Mende. Il est arrivé au mercato d'hiver. si je me souviens. Donc il a dû faire à la fin de saison, puis une année suivante, il est resté un an et demi. Un petit ailier de poche, hyper rapide, hyper technique, et puis surtout un bout en train qui avait toujours le sourire et qui était toujours prêt à raconter une blague. Il a laissé un excellent souvenir ici à Mende. Et donc après, il est parti à Bourg-Péronas. Oui. Après, il a joué.
Une saison à Bourg avec la réserve de la Ligue 2.
La réserve de Ligue 2, exactement. Et c'est là où Luan Cuiseau l'a repéré. Et donc
il a fait une saison à Agde avant.
14 buts en CFA 2 l'année dernière à Agde.
Voilà. Il est titulaire là ?
Ah oui. Il a joué titulaire ce match contre Dijon en Coupe de France, 32e de finale.
Mais Achraf, je l'ai un peu appelé avant le match là, pour faire une petite interview donc, sur ma page Sportmonde. Et ce qui m'a marqué un petit peu là, quand on s'est appelé une petite dizaine de minutes, c'est qu'il a vraiment été très reconnaissant envers l'AFL. Pourtant, il y a passé, comme l'a dit Patrick, qu'une année et demie. Mais il a dit que voilà, vraiment, il avait passé vraiment une super saison à l'AFL, qu'il était vraiment reconnaissant envers tous les dirigeants. Et qu'il était vraiment content de retrouver l'AFL cette année en CFA2 et qu'il avait déjà coché la date en mai pour le match retour, pour venir au chapitre, et qu'il était déjà très motivé. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick par rapport au budget et tout ça, il me l'a clairement dit, quoi, la montée c'est vraiment l'objectif du club. D'autant qu'au classement, bon, après Aurélien en dirait un peu plus sur le classement, mais ils sont bien placés avec deux matchs en moins, dont un qui vont jouer cette semaine déjà, mercredi, ils attaquent leur match en retard.
Trois matchs en moins sur Saint-Priest.
Ce qui leur permettra de voir plus clair déjà.
Le match que tu dis, c'est contre Cournon d'ailleurs. Ils ont trois matchs à moins.
Même s'ils les gagnent, ils passent même pas premier.
Ils sont à égalité.
S'ils gagnent trois matchs, ils sont à égalité.
Je les vois pas monter, moi.
Il faut rappeler que Luan Cuiseau était en Ligue 2 il y a encore quelques saisons. Exact. Avec des infrastructures donc niveau Ligue 2.
Un stade
et donc on parle toujours de budget. Tout à l'heure, on a parlé. Les dirigeants ont été très reconnaissants de l'accueil des dirigeants et de l'après-match. Parce que bon, pour des raisons par rapport aux chauffeurs, ils ne pouvaient pas partir avant 10h du soir. Bon, il y a des réglementations.
Alors on dit, il va neiger, vous allez galérer. Allez, voilà. On va vous faire galérer un peu plus, rester 2 heures de plus.
Ils sont restés là-haut avec les dirigeants de Luan Cuiseau. Et ils ont été reçus comme des princes. Mais vraiment, des buffets, vraiment un très bel accueil. Donc les dirigeants ont souhaité remercier le club de Luan Cuiseau.
Ils ont mangé des frites et bu du coca.
Refaire pareil au match retour, évidemment, les recevoir dignement.
Ben oui.
Et donc prochain match dimanche, attention, hein, horaire exceptionnel et jour exceptionnel, dimanche 15h contre Cournon, au chapitre, si les conditions météo le permettent.
Cournon qui est 13e, et surtout la revanche du match aller où il n'y avait pas eu de match.
J'y étais à Cournon,
où l'AFL aurait dû gagner avec au moins 2-3 buts d'écart, et puis finalement se fait piéger sur une fin de match. Donc voilà, j'espère que les joueurs ne l'auront pas oublié. De toute façon, c'est sûr, ils ne l'auront pas oublié.
Et Cournon, donc, qui aura joué mercredi un match en retard contre Luan Cuiseau, si là aussi les conditions le permettent.
Ouais, ça m'étonnerait.
Il n'y a pas le salon de l'agriculture, là, Cournon, aussi, en même temps ?
Non, c'est pas maintenant.
C'est pas maintenant ? C'est plutôt un février. Ok, bon, on va pas dire le classement, parce que c'est vrai que Saint-Priest a 13 matchs et premier, mais le second n'a que 11, le troisième 12, le quatrième 10, on fasse un peu n'importe quoi. Voilà, en tout cas, là, pour l'instant, Mende est sixième avec 19 points. On va quand même dire un mot sur la Coupe Lozère, avec ce match tendu entre l'AFL et la Badarou qui s'est tenu il y a 2 semaines. Peut-être que tu jouais.
Bien sûr qu'il jouait.
J'étais présent.
Il a fait une entrée dans la froideur du Cosse d'Auge, mais bon, oui, il est rentré sur son aile. Il a joué un gros quart d'heure, un quart d'heure à 20 minutes. Donc Julien pourra en parler aussi. Bon, moi, j'y étais, bien sûr, en tant que spectateur en autre. Et c'est vrai qu'on a vu une première mi-temps qui était assez électrique. Bon, Julien est rentré. Il faut reconnaître, on en rigole, mais il faut reconnaître quand même que les esprits se sont calmés avec la pause. Il y a une deuxième mi-temps, on a vu un match d'une clarté absolue. Mais c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps sous tension avec... Avec Aziz Diédou, hein, il faut pas le passer sous silence, mais aussi des attroupements et bon quelques petites phrases entre les deux équipes, entre joueurs et bandes de touche, et donc c'est vrai que je me suis dit ça part fort, et j'étais punké quand même sur le déroulé de ce match, mais bon, après quand même tout le monde s'est repris.
Ah, il paraît qu'à la mi-temps, ils se sont dit, attention, il y a Patrick Biancone, il va nous défoncer dans l'article, calmez-vous.
Non, mais c'est vrai qu'on en parle depuis le début de la saison du jeune frère Dibou. On sait qu'il est arrivé bon, en début de saison directement du Sénégal. Et bon, moi je le dis franchement, il joue pas pour faire mal. On le voit quand même, mais il a une telle puissance physique. Et bon, vous savez que sans le voir jouer, je l'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, dans d'autres émissions, on dit attention, le frère de Dibou, il paraît que c'est un Golgoth, bon, il expose tout sur son passage. Et donc c'est la première fois que je le voyais jouer, et effectivement, bon, il nous a fait un premier quart d'heure du feu de Dieu, quoi. Donc c'est-à-dire que toutes les fois qu'il dégage, mais en même temps, il est tellement emporté par son élan qu'il percute quasiment
à tous les coups. Ça me fait penser un peu à Basile Boli.
Voilà, non mais c'est vrai. Et donc, il y a eu une première intervention d'entrée de jeu. Alors, il n'y a pas eu de blessé, mais c'était déjà impressionnant. Et puis après, deuxième intervention, ça finit par coup de genou dans les côtes de Sébastien Daudet. Bon, terminé pour lui. Et puis après, juste avant le quart d'heure, une sorte de coup d'épaule aussi en pleine tempe de Morgan Jean-Louis. Et puis là, un chaos quand même assez spectaculaire. Bon, il a été évacué, il est sorti le soir même de l'hôpital de Mende. Mais bon, c'est vrai que quand il est sorti du terrain, porté par les dirigeants et ses coéquipiers, bon, il avait la tête vraiment, tu sentais qu'il était un peu dans le coltard. Et donc, et puis juste avant la mi-temps, une troisième intervention, donc ça fait deux jaunes, un rouge, là aussi sur Nelson. Nelson, on le connaît, on le sait chaud, donc un carton jaune pour les deux joueurs. Et donc, comme c'était son deuxième à Aziz, bon, bien sûr, carton rouge, juste avant la mi-temps. Bon, mais sinon, après, sur le résultat du match, franchement, moi j'ai vu une équipe, et tout le monde l'a dit, une équipe de la réserve de l'AFL vraiment impressionnante. Hein. Et vraiment, je passe mes mots.
Très jeune en plus.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, très jeune mais impressionnante, à 10 contre 11 pendant une mi-temps, franchement ça s'est absolument pas vu, et puis on connaît Maxime Tessier, toute sa rigueur tactique dans les schémas de jeu, et là je peux vous dire qu'on sent très bien que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, où se placer. Bon, y avait aussi quelques renforts de la première aussi, il faut pas se soucier, en particulier Lucas Sesco qui a été très bon, Florian Fedel qui a été excellent, Ibou qui est rentré d'entrée au début de deuxième mi-temps, qui a fait une deuxième mi-temps de toute beauté, et puis il y a tous ces jeunes, Laurent, tu peux le dire, moi j'ai eu Bastien Graville que je connaissais absolument pas, arrière-gauche
qui n'est pas son poste.
Vraiment, un match de toute beauté. Bon, Adrien Chaumette, je le connaissais, je l'avais vu en U19. Bon, il a fait un match aussi super. Et puis, Yvan Ocon, qui est rentré en stopper en deuxième mi-temps. Vraiment, il a pas perdu un duel.
Ils ont fait combien de remplacements?
Non, mais après, tu rentres, tu sors. C'est la Coupe Lozère. Tu peux faire de multiples
changements.
Ouais, c'est illimité.
Exactement,
ouais.
c'est illimité.
C'est pour ça que t'as pu jouer, toi.
Donc voilà, donc vraiment belle équipe, et ben, on comprend mieux maintenant pourquoi en championnat 9 victoires et un match nul en PHA, et donc bien parti pour la DHA.
Surtout quand on connaît la qualité de cette équipe de Badarou, hein, qualité
oui,
technique,
exactement,
qualité tactique.
Exactement, avec pas mal d'anciens joueurs de l'AFL, en particulier Vlado Petkovic qui a à mon avis, a été très bon au milieu de terrain. Moi, j'ai bien aimé aussi le capitaine Romain Barandon qui fait des ouvertures de 20-30 mètres. Ça tombe toujours dans les pieds. Mais bon, c'est vrai que ces deux blessés en attaque, ça a réduit considérablement le potentiel de cette équipe de Badarou. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là, à mon avis, que ça a un peu, pas faussé, mais au moins déséquilibré le match.
Oui, Patrick a assez bien résumé le match. C'est vrai que bon, l'entame a été un peu chaude. Et comme il l'a dit, c'est vrai que la mi-temps a fait du bien. Je pense qu'aussi, mine de rien, le rouge d'Aziz a aussi montré aux joueurs de Badarou que l'arbitre l'avait sorti, parce que dès les deux, trois premières échauffourées, les joueurs de Badarou se sont vite rués autour de l'arbitre et autour d'Aziz. C'est vrai que ça a provoqué des moments un peu chauds.
Tout à fait.
Et ils ont bien fait comprendre à l'arbitre qu'il fallait sortir le carton. Et voilà, au bout d'un moment, à force de demander, c'est vrai qu'Aziz peut-être aurait pu se calmer aussi de lui-même, et à force de mettre 3-4 coups, l'arbitre a été obligé de mettre un carton rouge qui, même si c'est mon coéquipier, est tout à fait mérité, parce qu'à force de faire des fautes comme ça, mais on peut pas passer à côté.
Il t'a jamais vu jouer, Laurent, Aziz?
Je sais pas, aucune idée. C'est vrai que tu peux être son mentor.
Ouais, je pense qu'il a dû voir certaines vidéos. Est-ce que Maxime lui a fait voir des vidéos?
Des vidéos, parce que je crois pas qu'il ait marqué beaucoup de buts.
Bim! Bravo! Excellent!
Non, c'est vrai que moi je suis pas violent.
Mais après, oui, quand même, sur l'ensemble du match, même en deuxième mi-temps, quand on était à 10 contre 11, mis à part un moment où Victor Vous parliez de jeunes, mais Victor, dans les cages, était U19.
Tout à fait, tu es bien de le dire, le gardien.
C'est U19 qui a été
très sûr.
Très serein, vraiment. On aurait dit qu'il jouait tout le temps avec nous. Qu'il avait 25-30 ans, alors que c'est un U19 qui arrive de l'ENL. Il a un moment, un face-à-face à gérer. Il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment, parce que même si on a assez bien géré.
Face à
Jérémy Legros. Et donc voilà, il fait cet arrêt aussi, même si on a bien géré cette deuxième mi-temps, c'est à 10 minutes de la fin, s'ils reviennent à un partout, on ne sait pas après comment ça peut aller en prolongation. Et bon voilà, 5 minutes de la fin, Adrie Chaumette met une super frappe pour nous assurer définitivement cette qualification. Mais voilà, à travers ce match, on a montré qu'on était tous solidaires, qu'on n'allait rien lâcher. Et même si la coupe, on a coutume de dire que c'est une parenthèse, on a envie que cette parenthèse dure le plus longtemps possible, qu'elle nous serve pour le championnat. Et bien évidemment,
citer les trois autres qualifiés pour les demi-finales.
Oui, même citer le tirage au sort, puisqu'il a eu lieu.
Ouais, alors, on ira à Saint-Georges de Lève-Jacques. Donc, voilà.
C'est ça.
Qui a créé la surprise en éliminant le Buisson.
Le Buisson. Oui. Voilà, donc. Et de l'autre côté, je crois que c'est le Blémar Florac,
Le Blémar contre Football Sud Lausanne, qui est la fusion entre Florac et le Pont de Montmerle.
Alors, moi qui avais pronostiqué sur Badarou pour gagner cette coupe, c'est plus possible. Donc, je vais changer mon pronostic et vais miser sur le Blémar.
Soulignons le Blémar.
Grosse équipe du Blémar.
Qui est vraiment le petit poussé. Donc, à mon avis, je ne sais même pas si ça a dû arriver un jour qu'un club, je crois qu'il joue en deuxième division
des DFL,
qui arrive en demi-finale.
Ils sont énormes,
c'est totalement hallucinant.
Ils sont entraînés par le Rude Boy Crew, t'inquiète. On les connaît. Le Buisson, pour finir cette parenthèse football lausérien, a gagné à Poulx 5-2 avec un triplé de Pascal et un doublé de Gaillard. C'était le seul autre match qu'il y avait ce week-end. Voilà. Dont on peut parler maintenant.
Le match qui avait été inversé aussi, puisque le Buisson devait recevoir, puis finalement, l'émission, ça a été inversé.
Allez, une pause musicale, on revient avec cette actualité nationale, internationale, cet énorme match de l'OM à domicile face à Monaco. On va parler un peu de la CAN et d'autres choses tout de suite après Jimi Hendrix.
Touching a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see her weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. So
dust on the floor. And as far as I know, they may even try to rent me and sell the thing and sell me. Brothers, help me. And don't worry about looking at the store. Yeah.
Allez, c'est reparti avec, on va parler de quoi? Tiens, on va parler des championnats du monde de handball quand même, hein, qui se déroulent en France, avec un 3 sur 3 pour la France et surtout une belle victoire dans le dernier match contre la Norvège 31-28, parce qu'on va pas parler du Japon et du Brésil. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a suivi les matchs pour l'instant?
Oui, moi j'ai regardé le match contre la Norvège. Bon, rien à dire. Non, rien à dire, mais... Ce qui me surprend, moi, Juan, c'est ce réservoir, ce potentiel qu'il y a avec des joueurs bon, moins connus que nos stars, et puis qui rentrent. Et puis, il y a ce fameux Nguessam, là, qui est fabuleux. Et puis, Rémy Lee, qui a mis 5-6 buts d'affilée en deuxième mi-temps. Bon, impressionnant. Attention aussi, quand même, parce que même si on a eu de l'avance, on s'est fait quand même reprendre. Bon, il y a eu un arbitrage aussi un peu loufoque.
Allez, ça y est, c'est reparti.
Non, mais là, franchement.
Garde pour Turpin, là, on va en parler dans pas longtemps.
Franchement, bon, un duo venu d'Iran, bon, c'est vrai que c'était assez surprenant, parfois, les décisions, et les Norvégiens aussi étaient assez excités, un peu, à l'image des Varois, on les comprend aussi, et ils viennent finalement échouer que de très peu. Donc, attention quand même, mais c'est vrai que le fait de jouer à domicile, je pense que ça va être un avantage pour nous considérable, parce que les salles sont en feu, il y a le public qui est vraiment extraordinaire. Là, c'était à Nantes, mais le premier match à Paris, c'était pareil aussi, et à Bercy. Et donc, ça va être un énorme plus au niveau des arbitres et au niveau de déstabiliser l'équipe adverse. Et c'est vrai qu'on est bien lancé pour aller très très loin dans cette compétition.
D'ailleurs, moi j'ai un petit coup de gueule à passer. Tu nous demandais si on avait vu les matchs, mais on a pas vu les matchs justement parce que ils sont sur une chaîne payante, et je trouve que pour un championnat du monde qui se passe en France, que les Français puissent pas suivre la compétition.
Tu as raison.
Je pense que ça enlève un petit peu de l'engouement populaire.
Tu as raison.
Du coup, j'ai pas l'impression que vraiment la population soit à fond derrière cette équipe de France de handball. On va voir, bon, ils vont se qualifier en quart, en demi, donc on risque de voir là sur une chaîne publique les quarts de finale.
D'après ce que j'ai compris, à partir des quarts, ça sera sur TF1 ou sur une filiale de TF1, c'est-à-dire C8,
TMC,
News,
TMC. Tu as raison, Aurélien. Voilà. C'est vrai que c'est scandaleux.
C'était mon petit coup de gueule.
Le MGC a sorti un article aussi, ouais, sur les réseaux sociaux, sur le fait de ne pas pouvoir voir les matchs à domicile.
Et d'ailleurs, pour aller au bout du raisonnement, ils ont quand même publié les chiffres des premières audiences sur beIN Sport. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont vu le match d'ouverture contre le Brésil. Et donc, pour beIN Sport, c'est quasiment une des meilleures audiences hors football. Donc, il y a un engouement énorme. Bon, alors, c'est vrai que 600 000, c'est rien. Si c'était sur une chaîne de bien sûr gratuite, il y aurait une audience beaucoup plus forte. Mais pour une chaîne payante, les audiences sont énormes. Donc, la preuve que les gens sont prêts, ça augure vraiment d'audience énorme à partir des quarts de finale.
Je pense que la Fédération de handball a un peu raté ça, justement, cette organisation. Alors, je ne sais pas si c'est la Fédération de handball, d'ailleurs, mais ceux qui ont créé ça... C'est... Bon, on voit déjà au niveau télévisuel, pour l'instant, c'est raté. Le prix des places était exorbitant. Pour aller voir un match, il fallait sortir, craquer le porte-monnaie. Et ça marchait par lot de 3 matchs. Donc, c'est-à-dire que tu t'achètes un lot de 3 matchs, tu sais pas déjà si tu avais l'équipe de France compris dedans. Puis aller voir Suède-Belgique, tout le monde s'en fout.
Non, la Belgique, il n'y est pas, mais bon, Suède, oui. Mais
Suède-Tartampion.
Oui, voilà. Suède-Argentine, il y avait
Suède-Argentine.
Voilà,
Suède-Argentine,
non plus, Tartampion. Non, mais enfin, pour dire, c'était pas super bien organisé, j'ai l'impression. Donc, ils avaient fait ça pour être sûr de remplir les salles pour les autres matchs où la France n'y est pas. Je suis pas sûr que ce soit.
Ah, ils veulent récupérer de l'argent. Hein. On parlera de la Coupe d'Europe. Là, ils ont donné les chiffres du championnat d'Europe de football. 1,4 milliard, hein, je crois.
Une retombée énorme.
Énorme.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, sur la dernière Coupe d'Europe de football, on a vu que l'équipe de France se déplaçait aussi dans les villes, avait des matchs dans différentes villes. Là, tous les matchs de l'équipe de France sont à Nantes. Ils font tous leurs premiers tours à Nantes.
Sauf le premier qui était à Bercy. Le match d'ouverture était à Bercy. Bon, c'est normal.
Donc après, c'est peut-être un problème d'organisation aussi, etc.
Non, j'ai une réponse. Je vais te dire, et ça explique d'ailleurs pourquoi Montpellier n'a pas l'équipe de France lors du premier tour. Et bien, il fallait un ticket d'entrée, il fallait payer 500 000 euros pour accueillir les matchs. Montpellier, la ville de Montpellier et les collectivités du Languedoc-Roussillon ont refusé de payer.
À juste titre. D'ailleurs.
Et Nantes eux, par contre, Nantes a accepté de payer, donc c'est pour ça que Nantes a l'équipe de France au premier tour.
Les 500 000 euros, ils les avaient mis pour Miss France Montpellier, ils n'avaient plus l'argent. Julien.
Mais à la différence de ce que dit Aurélien, peut-être par rapport au foot, c'est que sur le foot, l'équipe de France jouait peut-être aussi tous les 4-5 jours. Et peut-être qu'aussi pour les déplacements, une question de logistique, c'est peut-être plus facile. Tandis qu'au hand, ça joue tous les deux jours. Donc avec plus de matchs de poule aussi. 5 matchs de poule. Donc sur 10 jours, peut-être aller une fois à Nantes, une fois à Brest, une fois à Metz. Peut-être que pour la logistique, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que sur le foot, le fait de ne pas avoir joué qu'au Stade de France ou au Parc des Princes, on l'a vu notamment la demi-finale contre l'Allemagne, où on gagne ce match contre l'Allemagne parce que c'est en France et parce que c'est au Vélodrome aussi qu'il y avait un fort engouement. Mais le fait de jouer en France ce mondial de hand, c'est clairement un avantage qui, je pense, va nous permettre de pousser en finale.
Cependant, à l'Orange Vélodrome, s'il te plaît.
Pardon. Cependant,
je suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de pays organisateurs qui aient gagné la Coupe du Monde de handball.
Alors ça, c'est fabuleux parce qu'il n'en sait absolument rien. Il sort ça comme ça, il balance une brique.
Non, mais c'est vrai que je me souviens.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc
je
laisse la possibilité.
Mais la France a gagné tous les champions du monde. Alors c'est sûr que oui.
Non, mais je me souviens une fois.
Ça veut dire que le pays organisateur n'a pas gagné.
Il a raison. Une fois, on a gagné
en
Croatie, exactement.
Mais c'est contre la Croatie.
Voilà. Et en Islande contre l'Islande au début des Barjots.
Donc, je n'ai pas dit une connerie.
Et bien, ce sera ta mission pour la semaine prochaine.
Allez, ça sera ma mission. je vais le faire.
C'est ça. Et faites gaffe parce que je vais vous le ressortir tout ça.
Mais d'ailleurs, tu parlais des matchs tous les deux jours. Je crois que les Danois se sont plaints que la France avait un jour de repos de plus que toutes les autres équipes.
Oui, parce que la Norvège n'a eu que 20 heures entre les deux matchs.
Voilà. Alors que nous, on a eu deux jours. Et puis, on a battu le Qatar aussi en finale, et c'était au Qatar.
Et c'était au Qatar.
Voilà.
Donc, qui va nous battre en finale? Ça va être la question. Hein non, voilà. On est champion du monde, on est d'accord? Laurent?
Non, franchement, je pense pas. Parce qu'il y a trop de.
Karabatic est blessé. Bon, c'est le frère, mais
il est le frère aussi. Ça, c'est pas le bon.
Non,
je vais vous dire pourquoi. Il y a trop d'assurance dans l'équipe. Là, on gagne les matchs trop facilement. Et quand tu auras un petit grain de sel, là, je sais pas, admettons en quart, on se tape l'Espagne ou je sais pas qui, là, une belle équipe, l'Allemagne. Si ça tourne pas super bien, est-ce qu'il y aura le mental nécessaire parce que le handball, ça joue beaucoup au mental. Et je suis pas certain que l'équipe de France l'aura.
Ça, c'est parfait, ça. L'enregistrement, super. Je le ressors dans pas longtemps.
On en reparlera.
C'est dans la boîte.
Bien sûr, je souhaite que l'équipe de France gagne.
Mais ça, on le repassera pas, ça.
Ouais.
Il y a un super coach, j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose.
Deux petites infos, parce qu'on a des pronostics à faire et c'est 13h22. Martin Fourcade, vainqueur de la poursuite, est à 10 succès en 13
courses. C'était où la poursuite?
C'était à Ruppolding.
D'accord.
Yes. En Allemagne.
Ruppolding.
Les Alpes allemandes.
Voilà. Le Real Madrid de tomber après
d'ailleurs,
avoir battu un record.
Vas-y. Il a dit qu'avec toute l'avance qu'il avait, il allait très certainement arrêter sa saison bientôt.
Oui, parce que sa femme est enceinte, donc il va être à ses côtés.
Une fois qu'il est sûr d'être champion, il a dit qu'il allait sûrement arrêter.
Mars.
C'est bon, ça.
Ouais.
Excellent. Le Real Madrid tombé après avoir battu un record de 40 matchs consécutifs sans connaître la défaite, dépassant la meilleure série du football espagnol, soit les 39 matchs qu'avait enchaîné Barcelone l'an dernier. Donc voilà, c'est à noter, hein. Bravo Zizou. Ensuite, Monaco prend la tête après sa large victoire contre l'OM, 4 buts à 1. Belle équipe Monaco, hein, Patrick, hein. Belle équipe.
Belle première mi-temps. C'est vrai qu'on a vécu une première mi-temps de toute beauté, avec un football offensif des deux côtés. Et c'est vrai que Marseille n'est pas armé pour le moment au niveau de la qualité des joueurs pour pratiquer ce genre de football, en particulier quand tu joues contre une équipe de Monaco qui est bon stratosphérique puisqu'elle a marqué 60 buts en 20 matchs. Donc même toi, Ludo, tu es capable de calculer combien ils ont marqué de buts par match.
Absolument.
C'est-à-dire 20 fois 3, ça fait 60, donc 3 buts par match. Voilà, bon, cette première mi-temps 3-1, c'est à mon avis un peu sévère. Bon, c'est vrai que nous, en tant que supporters marseillais, on va encore dire que Turpin, c'est notre bête noire, mais ça, on le sait tous. Bon, il y a eu une ou deux décisions un peu contraires, et en particulier, alors que, plus contre Monaco, où déjà l'écart n'est pas le même, bon, ça fait la différence. Mais on a vu une première mi-temps qui fait plaisir au football français de voir cette qualité-là.
Avec Falcao qui va peut-être partir. Hein.
Mais bon, en Chine. S'il y avait vraiment un joueur à recruter du côté de Monaco, ce n'est pas Falcao que je prendrais en premier, c'est bien sûr Bernardo Silva, le Portugais, qui est vraiment un joueur très, très, très au-dessus du lot dans cette équipe de Monaco. Et à mon avis, alors, même
c'est pas le seul, hein.
dans cette Ligue 1, il aurait largement sa place à Paris.
Ce qui est surprenant, c'est qu'en milieu de semaine, Monaco joue avec son équipe type, ou quasiment son équipe type, ouais. À Sochaux contre un club de Ligue 2 en Coupe de France, et va au pénalty. Et puis, donc on se dit, ça y est, Monaco est en train de redescendre un petit peu de son nuage. Et puis non, c'était...
Non, mais tu vois toute la différence. Bon, on va pas caber Cabella, il a mis deux buts contre Toulouse, mais bon, Cabella, il a deux énormes occasions d'entrée de match. Il tire, bon, Subasic arrête, mais il est à bout portant, il peut faire mieux. Et puis surtout la tête, là aussi quasiment à bout portant, il a meilleur cadre.
Non, mais il faut rappeler qu'il avait une cheville arrachée aussi.
Oui, c'est vrai. Un tac assassin, il n'y a même pas eu coup franc d'ailleurs. L'arbitre n'a même pas sifflé coup franc, alors qu'il a une semelle énorme, je crois que c'est de Sidibé, le monégasque, bon, 7 points de suture. Mais bon, il rate ces deux occasions, alors que de l'autre côté à Monaco, les deux premiers tirs, ça fait deux buts, quoi. Donc là, on a vraiment vu la différence entre une équipe, que niveau Ligue des Champions, et une équipe comme Marseille.
Niveau Coupe d'Alu.
Voilà, mais c'est vrai. Mais
je disais
à un copain, c'est sûr que note bien les 11 joueurs qui étaient présents contre Monaco, et c'est sûr que si tu veux être en Ligue des Champions dans les trois premiers en France, il faut en garder un, deux, quoi.
Donc, tu es obligé
d'avoir 7, 8, voire même 9 autres joueurs si tu veux vraiment jouer un rôle dans ce championnat de France l'année prochaine.
Patrick, tu gardes Akai et
Tourin dans les 11, c'est tout, quoi. Pour moi, il y en a zéro.
Ouais, tu peux garder Maximo Lopez, tu peux espérer une progression.
Tu vas arrêter de se caresser avec lui.
Une progression.
Ça a changé depuis fin 2016. À la dernière émission, c'était le génie, petit jeune qui arrive, et là, ça y est, on le dégage.
Non, on le dégage pas, c'est un bon petit joueur, mais bon.
Ah, mais c'est vrai que tu peux pas.
C'est lui qui va te faire jouer.
Tu peux pas aller loin avec les quatre défenseurs que tu as et le gardien que tu as.
Bon, ça, c'est sûr.
Bon, c'est vrai que le Mar, il met un super tir, mais bon, chaque fois sur les quatre buts, il y a l'impression que Pelé, il est scotché, quoi. Il a les semelles de plomb, donc. Bon, après, c'est vrai que le Mar,
il a une caillou dans la chaussure.
Non, mais c'est vrai que c'est assez. Bon, après, tu vois bien, Rolando, dès qu'il y a un ballon en profondeur, bon, ben, il y a la caravane, la double caravane, la triple caravane. Bon, Rod Fanny aussi, il essaie, chaque fois, il essaie une interception, une fois ça marche, une fois il dévie, bon, finalement, ça part. Bon, et tu t'es bien vu Cabella aussi, l'arrière droit de Monaco, lui, il était tout en attaque, Cabella, tu le voyais jamais. En plus, tu as Rekik, un fantôme arrière gauche, donc,
Ah, Rekik. Voilà. Donc, j'adore cette recrue, quoi, qui sert à rien.
C'est clair.
Ouais. Mais c'était pas Bielsa qui l'avait recruté, Rekik?
Si, il était dans les petits papiers de Bielsa.
Et le fait qu'il va signer à
Lille. D'ailleurs, s'il veut le prendre, Lille, pas de soucis.
Draxler, bonne pioche?
Ouais, à mon avis, bonne pioche. Voit,
pour l'instant, bonne pioche. Hein.
Moi, j'ai toujours vu.
Deux matchs officiels, deux buts.
Un superbe but contre Rennes, là, pas facile à mettre du pas du pied. Donc, je pense que c'est une bonne pioche pour Paris.
Et puis faire ce genre de coup dans un mercato d'hiver, c'est quand même bien, quoi, parce que c'est un super joueur. Faut pas oublier qu'il est quand même champion du monde. Il reste sur 6 mois un peu compliqué à Wolfsburg parce que bon,
enfin, Diomède aussi est champion du monde. Comment il s'appelait l'arrière gauche?
Charbonnier aussi.
Chimbonda.
Chimbonda. Chimbonda, il est quoi?
Non, il a rien du tout.
Il est Draxler du monde. Draxler jouait quand même.
Ouais, faudrait qu'il jouait.
Il a fait 6 mois un peu compliqué à Wolfsburg. Bon, il a pas fait la grève comme un certain Dimitri Payet, mais bon, il avait pas envie de jouer. Et bon, voilà, là, on voit qu'à Paris où il peut s'impliquer dans un projet, j'ai vu une stat où, bon, voilà, 3 tirs, 2 buts en 2 matchs. Je pense qu'il va vraiment amener quelque chose. Après, on pensait aussi que des mecs comme Di Maria, tout ça, devaient faire passer un palier à Paris. Donc, ne nous enflammons pas trop vite. Et je pense que le test pour lui et pour tout le PSG, de toute façon, ce sera Barcelone dans un mois.
Oh, déjà dans 15 jours, il y a un PSG Monaco ou un Monaco PSG, je sais pas, qui va compter, qui risque d'être un bon petit match quand même.
PSG Monaco.
Dans 15 jours, c'est vrai.
Et justement, on va pronostiquer milieu de classement Lyon-Marseille dimanche prochain. On va te laisser parler en dernier, Patrick, comme tu es le champion, tu as cet honneur-là.
D'accord.
Lyon-Marseille, moi je dis 2-1 pour Lyon. Laurent.
Je dis 2-0 pour Lyon, avec deux pénalties de la Casette.
Oh, est-ce que tu refais, Marc? Non, il ne peut pas arbitrer Marseille deux week-ends d'affilée.
Ah, mais il y aura quand même des pénaux, fais pas de soucis.
Ouais, Lyon devrait gagner, je pense, 2 ou 3. Hein.
Non, c'est
2 ou
3.
3-1
pour Lyon.
D'accord.
Et moi, je dis 2-0 pour Lyon.
Comme moi.
Ouais, j'ai confiance en toi.
Quoi. Mais donc, n'importe quoi.
Déjà, j'ai perdu.
On est les deux derniers. T'es au même niveau que moi. Hein. On est les deux derniers, donc je pense qu'on va marquer tous les deux.
C'est bien parce que Julien qui vient d'arriver, il est au même niveau que vous. Allez, Patrick.
2-1 pour Marseille.
Ah, merci. Allez, la CAN, pronostic de la CAN, messieurs, le champion. Hein, juste. Alors, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Sénégal qui a pas mal débuté.
T'en as oublié.
Il y a le Cameroun, il y a.
Allez. Pour moi, ça sera le Burkina Faso.
Ils y sont, Patrick ?
Ils y sont, le Burkina Faso. Ils ont fait match au premier match, je ne sais plus contre qui.
Mais tu vas voir ça.
Mais contre... bon, là, c'est la surprise du siècle. Hein.
Contre des féminines, ils ont fait match nul. Julien ?
Côte d'Ivoire.
Oh, on ne prend pas de risques, c'est joli ça, bravo. Aurélien ?
Ghana.
Le Ghana. Alors, explique-nous pourquoi.
Parce que j'ai vu une interview d'Ayou il n'y a pas longtemps où il disait qu'il était chaud patate pour la CAN.
Lequel Ayou déjà ? Celui
Jordan
qui joue André.
Ou le père.
André. Et donc, il expliquait qu'ils étaient arrivés en finale les deux dernières éditions. Et que donc là, je les sens bien sur la lancée, je les sens bien.
Alors,
c'est leur année.
Hervé Renard, il coach quelle équipe là du coup ?
La Côte d'Ivoire. Le Maroc maintenant. Il a gagné avec la Côte d'Ivoire.
J'ai peut-être changé alors finalement.
Voilà. Non,
trop tard. Il coach le Maroc.
Bon, je reste sur ça.
Ok, voilà. Le Ghana. Patrick.
Ouais, je vais dire, j'hésite, mais je vais dire le Sénégal.
Ah, je voulais dire le Sénégal. Ah. Bravo, Patrick.
Et
je vais
pourquoi
changer.
Pas l'Algérie, il y a une très bonne équipe, l'Algérie.
L'Algérie a perdu le premier match.
2-2.
2-2. Alors, moi, je dis l'Algérie.
Je crois que c'est pas mal, l'Algérie.
1-2-3. Viva Algérie.
Ça klaxonnera sur le boulevard.
Mais il n'y a pas Boudebouz, alors tu vois, il y aurait Boudebouz, je l'aurais dit. Oui, il est blessé.
Il y a Riyad Mahrez, par contre.
Il a marqué 2 buts d'ailleurs.
Ouais, ça vaut pas Boudebouz.
C'est lui qui a marqué les 2 buts.
Riyad Mahrez, rappelle-toi.
Ça vaut pas Boudebouz, ouais, je m'en rappelle.
Meilleur joueur anglais, quand même.
Meilleur joueur anglais, ouais.
Ok. Pour juste dernier mot, pour finir, on passe.
Il faut voter pour Gobert à l'NBA, c'est ça ?
Il faut voter pour Gobert pour le All-Star Game NBA. Et puis cette nuit, il y a la revanche Golden State contre Cleveland, la revanche du Christmas Day.
Alors cette nuit, si vous écoutez en direct, parce que si vous écoutez le replay de mercredi, c'est mort.
Voilà, c'est ça. C'est dans la nuit de lundi à mardi.
Bien, Laurent.
Effectivement. Ouais. C'est à 2h du matin pour les couches tard. Si vous voulez.
Ça commence à quelle heure le Christmas Day ? Il n'y en a pas à 18h là, 21h ?
Christmas Day, c'est le Martin Luther King Day.
Maîtrise l'anglais.
S'il doit y avoir un match à 20h ou 21h, ouais.
Bien, je pense. On va regarder ça. Hein.
Ouais. Sur Bein, par contre, il vous faut être abonné. Voilà. On est sur Bein.
Si tu veux regarder le football américain, qui est en plein playoff en ce moment, c'est aussi sur Bein. Et donc, il y a eu une victoire écrasante d'Atlanta contre Seattle. Et donc,
les Hawks d'Atlanta.
Voilà.
C'est au basket.
C'est les Falcons.
Par contre, si vous avez pas Bein, vous pouvez regarder Joséphine Ashgardien.
Voilà. C'est autre chose.
C'est très bien.
C'est aussi du sport.
C'est ça. Bon, on va arrêter les blagues là. Joséphine Ashgardien, on se retrouve lundi prochain. Même heure, même antenne. Merci les gars, à bientôt.
Allez, à bientôt, au revoir.
Les Split John au couloir en numéro 2, allez les Split, c'est parti pour les Split John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.